Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison du podcast Ici Montferrand, la sixième saison déjà. Autour de la table pour ce premier épisode de cette QV 2023-2024, Christophe Buron et Didier Cros. Messieurs, bonjour.
Bonjour Manu, bonjour à tous.
Bonjour Manu, bonjour à toutes et à tous.
Alors une saison de top 14 un peu atypique cette année en raison de la Coupe du Monde. Trois journées se sont disputées avant le début du Mondial en août et début septembre. Et près de deux mois après cette dernière journée, après la troisième et dernière journée, eh bien le championnat va reprendre ses droits ce week-end. L'ASM se déplacera à Lyon, ce sera ce dimanche à 16h05. On y reviendra dans quelques minutes. Mais avant cela, on va s'intéresser à cette question. L'ASM a-t-elle les armes pour finir dans le top 6 du championnat, ce qui ne lui est plus arrivé depuis la saison 2020-2021. Messieurs, un rapide petit tour de table, est-ce qu'elle a les armes ?
Oui, probablement.
Elle a des armes, mais est-ce qu'elle les a toutes ? J'en suis pas sûr.
Alors, avant d'écouter vos arguments, messieurs, on va refaire un petit point après ces trois premières journées de top 14. Donc, l'ASM qui pointe à la sixième place avec 9 points. Les Clermontois qui ont commencé par une défaite à Oyonnax, un revers 36-17. Et avant d'enchaîner par deux victoires au Michelin face à l'USAP, 38-14. Et face à La Rochelle, un succès d'un point, 11-10. Alors, un classement de top 14 qui est actuellement dominé par le Stade français, seule équipe invaincue d'ailleurs, 3 victoires en 3 journées avec 13 points pardon, et l'USAP ferme la marche, elle qui n'a pas gagné une seule rencontre pour l'instant. Alors tout d'abord messieurs, quel bilan peut-on dresser pour l'ASM après ces 3 premières journées ?
Il n'y a pas eu de perf très importante, mais il n'y a pas eu de faux pas non plus. Ils sont dans le rythme d'une équipe qui gagne chez elle et qui a perdu le seul match à l'extérieur. Alors le problème, c'est que c'est contre le promu et que généralement le promu est une cible souvent un petit peu désignée pour aller remporter des points à l'extérieur. Ça n'a pas été le cas parce que sur une première journée, c'est toujours compliqué. Le promu est remonté comme un coucou, elle veut pas louper son entrée dans la course pour son retour dans l'élite. Donc c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Clermont n'était pas prêt, n'avait pas mis les ingrédients qu'il fallait à Oyonnax. Donc et Oyonnax par contre voilà, était hyper motivé, hyper agressif, et donc Clermont s'est incliné assez logiquement. Et après l'ASM a gagné ses deux matchs ici, donc bon, ça c'est dans la logique. Mais il s'en est fallu de peu quand même sur le dernier match. Je sais pas si t'as donné le score, mais c'était
11-10.
Ouais, 11-10. C'était ric-rac contre La Rochelle. Donc c'est juste, c'est honnête, mais voilà, sans plus.
Ce match contre La Rochelle, il est important parce que l'ASM passait un test hein, face
au Maritime. Oui, c'est une victoire qu'il fallait, c'était une victoire nécessaire et indispensable à ce moment-là de la saison. Hein. Ce qui est surtout préjudiciable, à mon sens, c'est d'être revenu bredouille de Yona, hein, parce que je pense que d'ici la fin de la saison, tous les concurrents potentiels de Clermont iront récupérer quelque chose dans l'un, et alors que Clermont est revenu bredouille et que forcément, à un moment ou à un autre, même si si ça s'est passé tôt dans la saison, il y aura un déficit qui va s'opérer par rapport à ça.
Ça oblige ce genre, Didier a raison, mais ça oblige déjà Clermont à aller faire une perf chez un gros, entre guillemets, hein, c'est-à-dire une équipe qui vise le top 6 d'ici la fin de saison. Donc c'est vrai que c'est un petit joker de griller en n'allant pas chercher des points à Yona.
Alors ces trois premières journées ont notamment permis aux supporters clermontois de découvrir les nouveaux visages. Il y a eu un turnover assez important durant l'intersaison, 14 départs pour 10 arrivées. On a vu, Christophe Furios avait ciblé en fin de saison dernière, trois points clés qui avaient manqué ou l'ASM avait pêché, le leadership, la réussite au pied et la puissance du pack. On a senti dans le recrutement que les dirigeants clermontois et le staff avaient voulu justement essayer de corriger ce qui paraît logique. C'est manque, et pour l'instant au niveau du recrutement il y a eu des choses intéressantes. On va parler du leadership, on va parler du buteur, on pense forcément à Roda Pileta qui a rejoint Christophe Furios, qui le connaissait déjà cet été à Clermont.
Oui, c'est vrai que ça a été le recrutement peut-être le plus tardif et le plus inattendu, parce qu'il a été décidé très tard dans la saison et il s'est fait en 48 heures, enfin ça a été très vite fait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui l'ASM ne peut qu'être satisfaite d'avoir trouvé un joueur qui soit régulier au pied. Le club en avait besoin. Et c'est vrai que Roda Pileta, même s'il a signé qu'un an, parce que bon, il a 37 ans, je crois, il fallait un joueur de cet acabit pour traverser cette saison et ne plus vivre avec ses 65 ou je ne sais plus combien % de réussite au pied qui n'est pas possible à ce niveau-là, quoi, qui est très très compliqué à compenser après si vous voulez viser le sommet du top 14.
On l'a vu, notamment le match face à La Rochelle, Dorda Pileta, qui a tout de suite endossé ce rôle de leader qu'on attendait. On parlait bien sûr avec Christophe de la réussite au pied, mais il y a ce patron aussi qui est revenu et qui est là sur le terrain.
Oui, lui, il n'a pas déçu. Hein. Il a joué que deux matchs, puisque le premier, il était en délicatesse avec ses adducteurs, autant que je me souvienne. Mais il a répondu aux attentes immédiatement dans le comportement et aussi dans la réussite au pied. Hein. Donc, pour l'instant, à ce niveau-là, c'est une réussite et c'est un élément qui sera certainement important pour la saison et pour faire mieux que les deux saisons précédentes, c'est sûr.
Alors, il y a également eu le pack hein, qui a été renforcé avec les arrivées de Fainga, qu'on a déjà vu sous le maillot clermontois, Simons, Gabriel, Kremer également, qui ont rejoint l'effectif clermontois. Kremer qu'on n'a pas encore vu puisqu'il participe actuellement à la Coupe du Monde. Et Sowakula qui arrive en ce début de semaine en Auvergne. Voilà, là, on l'a déjà vu, il y a un exemple assez flagrant, c'est Simons qui tout juste arrivé hein, s'impose déjà comme un élément clé. On l'a encore vu en amical vendredi dernier.
Alors les échos qu'on a, c'est que c'est quelqu'un qui fait l'unanimité. Alors il le fait déjà sur le terrain lors des matchs auxquels il a participé, et il le fait aussi dans tout ce qui est hors match, préparation, entraînement, tout ce qui est important pour un sportif de haut niveau, hein, ce qu'on appelle tout ce qui fait qu'un joueur devient quelqu'un d'important. Il fait l'unanimité, c'est bon, visiblement une très bonne pioche, son professionnalisme, sa rigueur, son impact sur le terrain, enfin, effectivement c'est quelqu'un qu'on remarque pas forcément parce que il flambe pas, ballon aux mains, il fera pas des grandes percées évidemment vu son poste, mais ça sera, enfin, sur ce qu'il a montré déjà par rapport ces trois premiers matchs, c'est quelqu'un qui va compter beaucoup et qui va peser aussi sur le pack de Clermont. Il en avait besoin à ce niveau-là.
Quand un joueur comme ça a l'état d'esprit, on va dire positif, c'est-à-dire qu'il ne vient pas ici pour passer des vacances, avec 100 sélections avec les Wallabies, c'est forcément un joueur qui peut devenir qu'important. Quoi. Et comme ça a l'air d'être le cas en termes de comportement, en effet. Ça va être un des patrons du pack, enfin ça l'est déjà, mais ça va l'être, je pense, au fil de la saison, oui.
Oui, et puis il y a beaucoup de curiosité aussi avec les arrivées de Sowakula.
Ouais. Pour Simon, c'est en plus c'est un leader de touche, c'est quelqu'un on sent qu'il a une intelligence de jeu. Donc dans tout ce qui est décryptage sur les lancements adverses et tout, on sent que c'est quelqu'un qui va en effet qui va en imposer.
Alors on a vu également hein, derrière des joueurs comme Jurand ou Fouissac qui ont déjà montré des choses intéressantes. Est-ce que selon vous, messieurs, l'effectif de l'ASM est plus dense et plus homogène que la saison passée ?
Alors on va commencer. Moi, je vais commencer peut-être à aborder sur les arguments pour dire que par rapport à la question que on va aborder tout à l'heure, c'est savoir si elle a les armes ou pas. Je pense que l'une des difficultés de l'ASM. Bon, on a parlé du pack où visiblement là, il y a clairement c'est densifié, durci son paquet d'avant, ce qui était important et ce qui était nécessaire. En revanche, j'ai plus de doutes sur la qualité de la ligne de trois quarts. Qui avec le départ de Penaud, a perdu son seul international et qui n'a pas été compensé à mon sens par rapport à ça. Donc je pense que là il y a un gros doute, il y a une grosse interrogation sur la qualité de cette ligne de trois quarts. À voir. À mon sens, c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'elle n'a pas forcément toutes les armes pour briller parmi le top 6.
Je suis en partie d'accord, mais il y a un effectif où, si on prend les titulaires, je prends un Raka, un Delgui, un Moala, un Simonet, un Newsom, ça a les qualités et je pense que ça peut rivaliser avec le reste des clubs qui peuvent viser le top 6. Mais il n'y a pas de réserve, en effet. Je veux dire, il faudrait que tous ces joueurs-là soient pas loin de leur meilleur niveau pour qu'il y ait une ligne de trois quarts très performante à l'ASM cette saison. Donc c'est vrai que l'effectif s'est rééquilibré avec une densification du pack, ce qui était la priorité d'Urios. Hein, il voulait vraiment avoir une base solide. Je pense qu'il l'a. On ne l'a pas encore vu à l'œuvre, parce qu'il manque les deux Argentins, le Sowakula qui va arriver. Donc, mais derrière, c'est vrai qu'il y a une pas d'incertitude, mais il faudra vraiment que les gars qui sont en place et qui seront titulaires, soient, enfin, les cadres, soient vraiment à leur meilleur niveau pour espérer performer en effet.
Est présent et soit épargné par les blessures.
Tout à fait. Ouais.
Ce qui malheureusement est déjà le cas puisque Fouissac est sur le flanc pour plusieurs. Enfin, il est déjà sur le flanc depuis plusieurs semaines et il va l'être encore pendant pas mal de temps. Quand on fait le bilan de la saison dernière, alors en espérant que cela ne se reproduise pas cette saison, mais bon, Rito a été longtemps blessé. Simone, bon, il a commencé à être blessé aussi. Moala, c'est beaucoup de temps aussi à l'infirmerie l'an dernier. Donc effectivement, s'il y a un ou deux joueurs qui sont blessés durant la saison, la réserve, comme disait Christophe, elle est pas au niveau requis par le top 14.
Est-ce que ça peut être inquiétant quand on sait que les joueurs vont devoir enchaîner 15 matchs de suite? Prochain week-end de repos, c'est 10 et 11 février. Hein, donc, il va y avoir un très très long tunnel là. On peut se poser quelques questions justement à ce niveau-là.
Oui, en effet. Là, l'habitude, je regardais, l'enchaînement, ça concerne 12. 13 matchs maxi. Là, ça passe à 15, c'est pas complètement anodin. Alors, le seul avantage, c'est que l'ASM, pas qualifié pour l'Europe, va jouer le challenge. Donc là, il peut y avoir une gestion un peu différente. Clairement, il peut y avoir du turnover et ménager quelques cadres, surtout si le club a la chance d'être épargné par les blessures, parce que ça, c'est... Et là, c'est une épée de Damoclès qui plane toujours au-dessus de tous les clubs, toutes les équipes. Mais c'est vrai que cet enchaînement de 15 matchs, il peut faire des dégâts, et surtout que c'est une période, une période particulière, quoi. C'est une période hivernale où on sait qu'il y a toujours un peu plus de blessures, de par les conditions, les terrains et tout ça.
Justement, on en parlait avec Christophe il y a quelques secondes, du challenge européen, la Challenge Cup. Est-ce que ça peut être un avantage pour les Clermontois cette saison, surtout en plus dans ce long tunnel qu'il va y avoir, de jouer entre guillemets la petite Coupe d'Europe où on sait que l'intensité n'est pas la même, et ce qui permettra d'avoir une gestion de l'effectif? Juste un petit mot avant de te donner la parole, Didier, pour rappeler le calendrier des Auvergnats, hein, dans cette compétition. Il y aura la réception d'Édimbourg début décembre, ensuite un déplacement à Gloucester le 15 décembre et la deuxième fenêtre en janvier avec la réception des Scarlets et ce déplacement en Géorgie à Tbilissi le 20 janvier. Est-ce que justement, voilà, ça peut être un petit avantage par rapport aux concurrents directs?
Il faut bien se consoler un petit peu d'une manière ou d'une autre, hein. Le club aurait préféré jouer la H-Cup avec tous les problèmes que cela peut engendrer, hein. Donc ils vont jouer le petit challenge. Ça revêtira des avantages, effectivement, en termes de gestion de l'effectif. Ça sera un avantage que si le club va loin, effectivement, dans cette compétition, s'ils arrivent à aller au moins jusqu'en demi-finale. Pour l'instant, en termes de... C'est malgré tout une forme de déclassement, quand même, participer à cette petite Coupe d'Europe. Hein.
On en parlait aussi tout à l'heure de Christophe Furios, donc qui est arrivé en janvier dernier. Il attaque sa première véritable saison avec les Clermontois et il a fait venir autour de lui, il a sa garde rapprochée entre guillemets avec ses fidèles adjoints, hein, Frédéric Charrier et puis Julien Lahirle et également Mourad Abed, le préparateur physique. Est-ce que ça peut compter aussi? On sait que Christophe Furios veut révolutionner entre guillemets, hein, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour les Clermontois. Est-ce que c'est plus facile de pouvoir mettre en place sa philosophie avec les personnes de confiance autour de lui?
Ah bah c'est clair, oui. Je pense que ça a fait ses preuves. Hein. C'était, hormis Julien Lahirle, c'était le staff d'Oyo qui l'a fait monter en top 14 il y a pas loin de 10 ans. C'est le staff qui a fait du Castres Olympique un champion en 2018. Et c'est le staff qui a plutôt performé avec Bordeaux pendant deux saisons. Quoi. Donc, et puis bon, pour élaborer un projet de jeu, c'est plus facile de travailler avec des gens qu'on connaît, des gens avec qui on a l'habitude de travailler. Et c'est le cas avec, comme tu dis, sa garde rapprochée.
Alors, il y a eu tous ces changements pendant l'été. Est-ce que, Didier, cette deuxième phase de préparation de cette semaine, est-ce que c'est un plus pour les Clermontois en cette saison particulière, après tous les changements, pour travailler justement sur le projet de jeu qu'on évoquait avec Christophe à l'instant? Est-ce que ça leur permet de gagner du temps supplémentaire justement pour être prêt pour cette reprise?
Si on croit notamment le préparateur physique, ils ont axé cette deuxième préparation, parce qu'on peut parler de deuxième préparation, hein, elle était aussi longue que la première, pour pour peaufiner le physique dynamique. Enfin, donc ils ont fait encore un gros travail physique durant ces six semaines. Ils sont rentrés dans la phase technique et projet de jeu dans les 15 derniers jours. On a commencé à avoir des résultats vendredi soir à Rouen. Donc forcément, ça a porté ses fruits un petit peu. Hein. Effectivement, la mayonnaise est en train de commencer à monter, hein, forcément. Mais on sait qu'il faut du temps. Hein. C'est avec un nouveau staff, avec des nouveaux joueurs, ça peut pas se faire d'un claquement de doigts. Ça serait trop facile hein, si c'était comme ça.
Cette deuxième intersaison, qui est évidemment très longue et inhabituelle, elle est favorable à des clubs qui sont un peu dans la reconstruction, comme Clermont, en effet. Hein. C'est peut-être pas le même impact dans des clubs où les staffs sont installés depuis longtemps, où il n'y a pas eu trop de turnover au niveau de l'effectif. Mais c'est vrai que beaucoup de choses peuvent se jouer, là, en effet, ou ont pu se jouer en termes de cohésion, en termes de préparation et d'apprentissage du nouveau projet de jeu sur cette période à l'ASM. Ouais.
En sachant que le staff clermontois a pu compter sur un effectif, pas au complet, mais presque. Je mets les joueurs blessés à part, hein, mais je veux dire, il y a eu 4 internationaux qui ont été appelés avec leur sélection pour disputer cette Coupe du Monde. Je rappelle, hein, pour la première fois de l'histoire, il n'y a pas eu de tricolore dans l'effectif clermontois retenu pour cette Coupe du Monde. Il y avait Moala qui a participé au Mondial avec les Tonga, Fritz Lee avec les Samoa, Kremer et Lavanini avec l'Argentine. Ils sont toujours en lice et ils vont participer à la petite finale ce week-end. Justement, ça a permis de travailler avec un effectif quasi complet, ce qui est du luxe cette période de la saison.
Oui, il y a bien encore 2-3 blessés qui sont encore un peu en marge, mais c'est vrai que ça a probablement permis sur ces 8 semaines là, ou 7 semaines, hormis les 2 évidemment de repos qu'ils ont eu, de vacances, de travailler, et puis vous étiez bien placés, Manu et Didier, pour voir les premiers résultats contre le Loup en amical, mais ça sera confirmé toujours à Lyon le week-end prochain.
On va y revenir dans quelques petites secondes sur ce match à Lyon. Justement, est-ce que ça peut être un avantage là encore pour les Clermontois d'avoir eu assez peu d'internationaux, et du coup, est-ce que l'après-Coupe du Monde va être plus facile à gérer que, encore une fois, ses principaux concurrents pour le top 6?
Moi, je crois que oui, hein, pour deux raisons. C'est que déjà, en termes de fraîcheur, l'effectif de Clermont va être beaucoup plus frais. Hein. Et d'autre part, le fait de ne pas avoir d'internationaux français, ils ne vont pas récupérer des joueurs qui sont forcément marqués par l'échec retentissant de cette équipe. Hein.
Tant physiquement que mentalement.
Mentalement et physiquement et psychologiquement. L'échec contre l'Afrique du Sud est considérable dans les têtes. C'est passé un peu comme une lettre à la poste, mais bon, je serais curieux de voir comment vont réagir les Toulousains, comment vont réagir les gens de Bordeaux. Enfin bon, c'est quand même... Ils restent sur un échec considérable.
Quand on regarde
donc clairement il peut s'enorgueillir de ne pas avoir à gérer ça, parce que bon, les Argentins participer à une demi-finale, c'est quasiment un succès. Et quant à Moala, il n'a quasiment pas joué, donc il s'est préparé pendant 2 mois. Et Fritz Lee, il a fait une Coupe du Monde, il a fait sa première et dernière Coupe du Monde, et qui reste pour lui un succès, donc il revient sans être affecté, au contraire.
Quand on regarde le calendrier de l'ASM là, lors des 4 prochaines journées, donc il y a ce déplacement à Lyon dimanche, il y aura ensuite la réception de Bayonne, puis un déplacement à Montpellier et la réception de Toulon. Des candidats au top 6, est-ce que l'ASM a tout intérêt là, de marquer son territoire, d'entrer dès la reprise?
Oui, il n'y aura pas de match facile hein, cette saison, mais c'est vrai que ce calendrier-là, je pense qu'il faut quand même... Il faudrait que l'ASM vise au moins un succès à l'extérieur pour se positionner dans la bonne partie du classement, parce qu'il y a un moment, il va falloir aller gagner à l'extérieur.
Pour effacer cette défaite déjà initiale contre...
Ouais, rappelons que ce n'est pas arrivé encore depuis... ça va faire plus d'un an, je pense, maintenant, et Christophe Furios n'a toujours pas gagné avec l'ASM à l'extérieur en championnat. Donc ça sera un palier à franchir très rapidement.
Il n'y aura pas de match facile, d'autant plus que Clermont a rencontré les équipes les plus faibles, a priori, du top 14, des Oyonnax et Perpignan.
On va enchaîner avec la deuxième partie de cette émission et ce déplacement qui se profile à Lyon du côté de Gerland. Ce sera dimanche à 16h05. Alors, comme ça avait été le cas cet été lors avant le premier match de la saison où l'ASM avait terminé sa préparation face à Oyonnax, première équipe qu'elle a affrontée en championnat. L'ASM a disputé son dernier match de préparation, enfin son unique match de préparation avant cette reprise du top 14. C'était vendredi contre le Loup, donc elle va retrouver dimanche. Et l'ASM, voilà, qui a livré une prestation, un match costaud, a réagi Christophe Furios à la fin du match.
Tout à fait, donc il a parlé de match costaud. Je dirais d'abord pour commencer qu'ils ont conclu cette phase de préparation par une victoire, et c'est quand même important, même si ça préjuge de rien, parce qu'on avait suffisamment dit que la défaite contre Oyonnax à Issoire était préjudiciable, et on a vu que on a vu les conséquences. Alors il n'y a peut-être pas un rapport de cause à être fait direct, mais c'était quand même un signe. Et donc d'avoir gagné, on ne peut pas dire, il vaut mieux être dans la place de Clermont que dans celle de Lyon à 8 jours avant la reprise du championnat. Voilà pour le résultat. Pour le contenu, effectivement, on a vu des choses plutôt intéressantes. Alors quelques déchets, évidemment, parce qu'il n'y avait pas forcément l'intensité qui sera requis dans un match du top 14. Mais on a vu dans le combat, effectivement, en termes de défense, en dépit du premier trou d'air là, sur la première action de Lyon, on a vu qu'en défense, ça s'engageait, c'était assez bien organisé par rapport à quelques errements qu'on avait constatés durant les trois premiers matchs. Il y a eu du mieux, il y a eu du mieux dans la conquête aussi, malgré les trois premiers lancers qui ont été garé par l'Australien dans les lancers en touche. Donc effectivement, c'était un match qui a été plutôt bien mené aussi stratégiquement. En deuxième mi-temps, contre le vent, Clermont a eu plus de possession que Lyon, donc ça prouve qu'ils ont mené ça avec intelligence et maîtrise, avec une équipe qui avait été chamboulée à partir de la 50e minute par Urios. Donc il y a quand même beaucoup de choses positives à sortir de ce match. Et je le répète, Clermont, il vaut mieux être dans la peau de Clermont tout de suite que dans celle de Lyon, même si les acteurs ne seront pas les mêmes. Il y aura des arrivées, il y aura peut-être quelques blessés aussi des deux côtés. Je parle à Thibault Lana, bon, qui est sorti un peu sonné. Mais bon, c'est quand même une bonne manière de préparer ce match.
C'est encourageant, Christophe.
Surtout que Lyon aura forcément la pression pour ce match de reprise, hein, parce qu'ils accueillent, donc c'est un match à domicile pour eux. Donc voilà quoi, ça peut rajouter un peu de stress dans cette équipe lyonnaise
qui reste sur de lourdes défaites en plus,
qui apparemment a beaucoup de mal à voyager. Bon, elle a gagné chez elle le seul match, je crois, contre Toulon,
c'est ça,
mais voilà, qui a besoin de se rassurer et qui sait qu'elle a pas le droit de perdre à la maison, parce qu'on sait que le préjudice que peut-être une défaite à la maison. Donc voilà, clairement on peut y aller un peu plus tranquillement, un peu plus sereinement, même si la pression d'un succès à l'extérieur se fera, va être croissante au fur et à mesure que la saison avance, si par hasard et si par malheur, Clermont n'arrive pas à s'imposer dehors.
Enfin, s'il y a une victoire dimanche à Lyon, ça peut aussi enlever de la pression, cette fameuse victoire à l'extérieur que l'ASM recherche depuis des mois.
Ça peut être un petit déclic, hein, tout à fait, oui.
Je pense que ça commence à leur trotter dans la tête au Clermontois. En discutant avec Lucas Dessaigne à la fin du match, il abordait aussi cette on ne peut pas parler de chape de plomb, on pleure encore, mais cette incapacité qu'a cette équipe à s'imposer à l'extérieur en déplacement commence quelque part à leur prendre la tête, hein, aux uns et aux autres. Hein. Donc ça serait une manière de se libérer de cette pression et de repartir sur quelque chose, comme disait Dessaigne, de recréer une histoire vraiment, quoi.
D'un point de vue un peu plus individuel, même s'il y a eu un secteur qui a très bien fonctionné collectivement, c'est la touche, puisque Lyon a égaré 8 ballons sur ses lancers, bien perturbé par l'alignement clermontois. Après, si on doit s'intéresser à des prestations individuelles, il y a Julien Héritor qui est coupable sur le premier essai. Il rate son plaquage sur regard, mais par la suite, on l'a vu de manière très intéressante. Il a fait avancer son équipe défensivement, il a distribué 2-3 caramel. Il y a eu Raka également aussi, qu'on avait vu un petit peu en deçà sur ses deux premiers matchs de top 14.
C'était un peu son frère qui jouait en début de saison.
C'était plus qu'en deçà, oui.
Et là, l'ombre. On a retrouvé, voilà, sur certaines séquences...
On a retrouvé un Raka qui était plus proche de celui qu'on avait qui évoluait en début de saison dernière. Hein. Donc, un joueur qui est capable de casser des plaquages, qui est capable de mettre son équipe dans l'avancée, capable d'asséner des plaquages terrible. Enfin bon, on a vu un Raka qui, oui, qui ressemble à quelque chose. Vraiment à lui, mais pas à son frère.
Alors, pour ce match, le staff clermontois sera privé de ses deux internationaux argentins, Kremer et Lavanini. Ce sera trop juste hein, pour Sowakula qui est arrivé en début de semaine. Est-ce qu'il y a des retours?
Il y a quand même quelques heures de décalage horaire à digérer.
Est-ce qu'il y aura quelques retours à attendre côté
Il y a Sébastien Bézi qui est normalement devrait réintégrer. Il avait été victime d'une lésion musculaire à une cuisse au début du stage au Chambon-sur-Lignon. Donc lui, normalement, il doit réintégrer l'entraînement donc, cette semaine. Il doit être opérationnel d'après les informations qu'on avait eues la semaine dernière. Donc c'est un retour important quand même, surtout au vu de la prestation qu'il avait fait contre La Rochelle. Où il avait répondu présent. Hein. Et bon, Baptiste Genot, lui, il est revenu contre Lyon en amical, donc il n'y a pas de problème.
Il avait même participé à l'entraînement dirigé qu'il y avait eu une semaine.
Oui, tout à fait.
Ça risque d'être un peu juste pour Slimani, je crois.
Slimani, ça risque d'être juste, oui, parce que lui aussi a été victime d'une lésion musculaire à une cuisse il y a 15 jours de ça, donc ça risque d'être un peu ric-rac. Et Joris Durand, qui était ménagé, devrait aussi réintégrer le groupe, ainsi que Pesceliato qui avait eu quelques soucis extrasportifs durant les vacances là, mais qui doit lui aussi réintégrer l'entraînement et probablement aussi le groupe pour dimanche à Lyon.
Ben merci messieurs pour cette première, la saison est lancée, on se retrouvera lundi prochain, d'ici là belle semaine à tous, salut,
merci, au revoir à tous et à toutes.